Salut les garçons.
Salut Charlie.
Alors vous êtes prêts pour un nouveau duo inattendu?
Inattendu oui, mais pas improbable comme hier.
Voilà, parce qu'on le connaît ton slogan. C'est la douche écossaise, cette émission.
Ouais, bah, ça va. Non, alors notre couple du jour, attention. Il est le parolier et leader d'un des groupes de rock les plus en vue du moment. Héritier à la fois de Noir Désir et d'Apollinaire.
Je sais, c'est Arthur Teboul de Fush Atherton.
Oui,
je touche ma bille en musique.
Ah, il est fort, il est fort.
Attention, concentrez-vous. Alors elle...
Allez, on est chaud, vas-y.
C'est celle qui nous a réconfortés en 2015 après les attentats de Paris.
Non.
La dame qui est passée sur BFM TV qui a conseillé à tout le monde de lire Paris est une fête de Hemingway.
Non, c'est
Daniel Merian.
Mais non.
C'est Daniel Merian.
Oui, mais non. On dit non parce que c'est pas possible d'associer Daniel Merian et Fush Atherton.
Qui imagine une émission avec Sœur Emmanuel et Metallica?
Moi.
En tout cas, t'es nul pour faire des coupes.
Franchement, t'aurais été une très mauvaise présentatrice de tournée manège.
Bah peut-être, mais enfin vous deux, vous auriez fait d'excellents candidats.
On a déjà couché avec des filles.
Ouais, c'est arrivé.
Et coucou la France Inter! Nous sommes le mardi 30 octobre 2018, journée mondiale de la vie!
Bon, ça tombe bien.
Si, ça consiste à organiser partout dans le monde une minute mondiale d'acclamation. Je vous rassure, c'était à 13h, donc vous êtes épargnés. À la place, on vous propose de passer un moment avec Arthur Teboul. C'est le chanteur du groupe Fush Atherton. On a parlé de Vladimir Poutine avec lui au moment où un espion était empoisonné et où l'opposante principale était issue de la télé-réalité. Et le sketch vous donnera les clés pour entrer dans la playlist France Inter. Ensuite, on passera la parole à Danielle Merian, cette avocate militante féministe qui avait réagi après les attentats du 13 novembre en citant « Paris est une fête », le livre d'Hemingway. Avec elle, on a évoqué l'Irlande et son vote sur l'avortement. Nous avons aussi répondu avec elle à cette question très provocatrice qu'avait posée la presse. Pourquoi détestons-nous les vieux? Vous voyez, j'arrive pas à la poser.
Vous aimez les personnes
âgées. Mais je les aime, voilà. Alors, qui viendra nous gratifier d'une chronique?
Je vais vous le dire, j'ai la liste. Juliette Arnaud. Parce que suite au décès à l'époque de Philip Roth et Tom Wolfe, elle nous avait présenté un autre auteur américain dans la lignée des deux géants. Puis Guillaume nous donnera un cours de pitch. Comment faire un bon pitch, vous qui aimez tant ce
pitcher,
mot américain?
Donner envie,
on va dire comme ça. Et puis Rukyata Ouedraogo nous pitchera les barbecues entre amis. Elle donnera envie d'y aller ou pas. On terminera par un Frédéric Fromet sur l'élevage des poules. Le titre de cette chanson, Pompoupoule.
Et donc pour commencer, c'est Arthur Teboul. Donc on va dire Feu Chatterton.
C'est pas.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Arthur de Fush Atherton.
Merci.
C'est vrai que vous êtes un groupe qu'on entend beaucoup, qui a intégré la playlist France Inter et que France Inter s'enflamme pour Fush Atherton. Qu'est-ce que ça vous a fait de rentrer dans la playlist France Inter? On essaie de comprendre si c'est un Graal, si c'est une quête.
Ou une malédiction.
Si vous suivez cette étoile depuis longtemps, si c'est l'aboutissement dans la carrière.
Ça a commencé il y a un moment déjà, donc on est très fiers. Vraiment, c'est un soutien qui a été très important pour nous.
Ouais.
Passer la mort dans la pinède à la radio. Et à ce moment-là, pour nous, qui n'étions pas encore musiciens professionnels, disons, depuis quelques années on tourne, c'est devenu un métier, c'était comme un premier signe, ouais. Un premier signe que ce qu'on faisait peut-être allait devenir un peu pérenne ou solide.
Mm-hmm. Comment il vous tombe dessus? Est-ce que c'est lui qui va dans les petits concerts découvrir les nouveaux groupes, ou est-ce que c'est vous qui traînez devant les France Inter? Écoutez mon disque.
Non, on n'a pas fait ça, ouais. on était un peu trop pudiques peut-être. Et puis aussi, on avait une forme de, comment dire, de...
D'orgueil,
exactement. c'est le mot est exact. Et je me souviens plus très bien. On jouait beaucoup dans les petits bars de Paris, parce que c'est comme ça qu'on s'est fait la main. On n'enregistrait pas, on répétait des morceaux qu'on jouait. Et voilà, on a fait un premier clip qui a amené quelques professionnels, et c'est de remonter aux oreilles de Diévaro. Et puis quand on a reçu notre première SACEM, on s'est dit que passer sur la playlist France Inter, c'était pas seulement un morceau de gloire, mais aussi un bon banquet avec tous les copains.
Ce rock poétique et toute cette poésie dans ce que vous faites, après, est-ce que c'est facile ou pas d'être diffusé sur les autres radios?
Non, pas du tout. Non, c'est pas facile du tout. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas France Inter, peut-être qu'on passerait nulle part. Et comme on est pas prêt à faire des concessions sur notre quête de vérité qu'est la musique, quête de soi, on passera nulle part.
Juste pour les auditeurs, d'où ça vient le titre de le nom de votre groupe, Feu Chatterton, ça vient d'où?
Ça vient d'un tableau qui représente un poète anglais qui s'appelle Chatterton. Et ce tableau est assez beau parce que le poète y est allongé dans une chambre de bonne, avec un visage très pâle et des cheveux rouges longs, torsadés. Il y a une volupté, une tranquillité, alors même qu'on comprend, puisqu'au bout de son bras est un flacon vide, que le jeune homme est mort. Comme ça, c'est sinistre, mais ce n'est pas sinistre parce que à ce moment-là où il est encore dans un sommeil qui n'est peut-être pas tout à fait la mort, il a une grande beauté et il est très magnétique, très charnel. C'est pas du tout asséché. Alors c'est étrange qu'on ait pris le nom d'un poète pour son image plutôt que pour ses vers, mais on
aimait
bien ce pied
de sa création sur le tableau.
C'est vrai, il y a un coffre avec plein de poèmes déchirés.
Et aussi parce que la compagnie créole c'était déjà pris.
Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer là-dessous. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en, mon cœur est un pendule, mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre, mon cœur, sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Oh, Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin, cours, allez, vas-y. Que l'enfer entier est à notre hausse. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Viens vite, suis-moi mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol se nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. Mon cœur, l'espoir nous fait un signe. Oh Ginger, nous serons loin d'ici. Dans une heure, si tu le veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
De Feu Chatterton, et vous aurez noté qu'en cette journée mondiale de la vie, on a invité Feu Chatterton.
Pour parler gingembre.
Hein ?
Ginger.
Arthur Seboul est avec nous. On va aborder ce premier sujet rieur, souriant, libertaire, foufou, qui contient autant de suspense qu'un épisode de Louis la Brocante, les élections en Russie. Une seule opposante, actrice X, candidate de télé-réalité, un ancien espion probablement empoisonné en Angleterre, et toujours Vladimir Poutine. Il a ordonné qu'on lui laisse la parole.
Pour fumer un cerf, il faut toujours être à l'heure. Et c'était son heure. Je suis toujours à l'heure. Proud to be a Russian.
C'est l'hologramme de Poutine, Gérard Depardieu, dans une publicité pour de l'horlogerie russe. Tout à fait, dont on a juste retiré la marque et bim, ça faisait tout à fait Vladimir Poutine, c'est fou. Hein. Voilà, il est en couverture de l'Express, en couverture de Society aussi, qui publie notamment les dessins d'enfants en Russie, où il y a eu un concours de dessins. On demandait aux enfants de dresser le portrait de Vladimir Poutine.
Il y a des belles choses. Hein.
Voilà, je vous fais circuler les dessins.
En hockeyeur, il y a un côté soutine chez certains enfants.
Voilà, et c'est des ça prouve que les enfants ont bien intégré la propagande de Vladimir Poutine, étant donné qu'il est très, très avenant sur les dessins, tuant un ours à main nue, avec des lunettes de soleil, etc. Vous, Arthur, si vous deviez dessiner Vladimir Poutine, n'ayant pas cette pression de la propagande, mais la voyant quand même, quels attributs vous lui mettez? Quel cliché vous avez de Poutine?
Moi, je l'aime bien avec son amphore trouvé dans la mer. Un joli amphore, miraculeusement retrouvé. En fait, c'est une mise en scène où...
Vous croyez, vous êtes sûr de ça?
Non, moi je sais pas. Non, parce qu'il paraît qu'il y a du polonium pas très loin, en Angleterre en tout cas. Non, je ne sais rien. Une amphore, quoi.
C'est... Oui, une très belle amphore.
Une très belle amphore.
Qu'il est allé chercher lui-même.
Au fond de l'eau.
Bien sûr.
Au fond de l'eau.
Avec ses petits bras.
Elle était là vraiment depuis longtemps. Et par hasard, quoi.
Il a croisé un requin.
Du flair. Ouais.
Il a mordu le requin qui est parti. Et il a.
Et c'est sur un dos de requin, comme. Enfin, il a parlé au requin qui lui a dit qu'il se trouvait pas loin de là une amphore.
Mais ce qui est réfrigérant, c'est qu'on voit dans les dessins des enfants, il y en a plein qui le montrent sous un dehors bienveillant et doux. Il y a un dessin notamment où il tient une colombe de la paix. Qui lui est donné par la planète. Et c'est là où on voit toute la force de la propagande. Si vous êtes distrait par Guillaume Meurice,
on va pas y aller. Non, on cherchait
la colombe.
Ouais. Oui, mais on ne la voit pas. On la voit pas, c'est dans le papier. Ouais.
Ah, okay. Oui, voilà.
Je pense que les élèves qui avaient dessiné Vladimir avec une petite tub, à mon avis, on n'a pas envoyé le dessin au Kremlin.
On n'a plus de nouvelles d'eux, en tout cas.
Voilà. On a gardé.
Arthur Teboul, vous, comment est-ce que vous appréhendez.
Le dessin
Non.
La petite tub.
Un peu plus sérieusement. Non, mais les drames du monde et puis toutes ces choses contre lesquelles on n'a pas prise, le cas de Vladimir Poutine, le cas d'un Trump, etc. Vous êtes spectateur comme nous, on n'a pas prise là-dessus. Comment vous le vivez?
C'est ce qui est le plus frustrant, c'est que je me sens à titre personnel, mais aussi avec le groupe, on parle beaucoup de ça, on se voit tout le temps. On se sent très démuni.
Vous parlez beaucoup de Poutine?
Mais pas le président, le plat.
Ouais. Oui, démuni. Et d'ailleurs, dans votre dernier album, dans l'Oiseleur, vous avez repris un poème d'Aragon, c'est juste Zone libre, qui dit le désespoir démobilise. C'est une manière de se tourner vers Aragon. C'est une manière d'appréhender ça.
Et toutes nos chansons, en fait, c'est-à-dire qu'on se sent démuni parce que ce qui nous agresse, ce qui nous met en colère. C'est le vacarme, la violence, une force comme ça de propagande très visuelle, enfin du bruit et de la fureur. Et comment lutter contre ça, contre l'utile, la vitesse, l'argent, ces choses-là très très puissantes, parce qu'elles sont tout de suite préhensibles, on peut les attraper tout de suite, elles sont très fortes. Comment on peut lutter contre ça sans utiliser les armes de l'ennemi, que sont la vitesse, le bruit, le vacarme? Par chance, nous, on fait des chansons, donc on se dit qu'à notre manière, bien qu'on n'ait pas l'air frontaux dans notre manière d'être citoyen, les chansons, c'est une manière de prôner la lenteur, de prôner la douceur, de faire une halte, de prendre le temps qui nous est pas donné, qui n'est donné à personne aujourd'hui. Donc on observe ça avec beaucoup de frustration et d'impuissance. Et toute cette impuissance, on essaye de la transformer pour se dire peut-être, c'est un espoir un peu orgueilleux, mais peut-être qu'au travers des chansons, cette tranquillité qu'on recherche dans ce monde et qu'on trouve pas vraiment un abri, un recueil, un refuge qui serait charnel et lumineux comme un jardin, peut-être qu'on peut le partager par nos chansons avec les gens.
Parmi nous, Juliette Arnaud est là pour nous conseiller une belle lecture.
Alors donc, coup sur coup, Tom Wolfe est mort, Philip Roth aussi, j'ai la tristesse. Alors j'en profite pour lui dire un mot à Philippe. Merci Philippe, ce que j'ai compris des hommes, de leur sexualité, de leur désir, c'est grâce à toi. Et c'est pas beaucoup ce que j'ai compris au vu de ma réussie vie amoureuse. Et j'ai pas su l'utiliser, pas plus contre eux que pour moi, mais j'ai bien ri et c'est déjà pas mal. Heureusement, dans le même temps, les éditions du Sous-sol viennent d'avoir la riche idée de republier et de retraduire « Le monde selon Barnett » de Mordecai Richler. Alors Mordecai Richler, c'est la même génération que les deux autres, Tom Wolfe et Philip Roth, c'est-à-dire c'est des gens qui sont nés au début des années 30. Mais lui, Mordecai, il est de Montréal, il est juif, comme Philip Roth. Il a été taxé d'antisémitisme par certains membres de sa congrégation, on va dire. Et « Le monde selon Barnett », c'est un bon gros roman comme ceux qu'aimait pondre Tom Wolfe. Alors, Philip Roth avait cessé d'écrire depuis un moment déjà. Hein, il était devenu un trop vieux monsieur. Il estimait qu'il avait fait le tour. Barnett, le personnage donc du livre, Le Monde selon Barnett, c'est le personnage de Mordecai, lui n'a jamais écrit. C'est pas son métier ou sa formation. Et il se décide à écrire alors qu'il est devenu un très vieux monsieur, que sa première femme s'est suicidée, qu'il a réussi à quitter la seconde et que la troisième l'a vraiment aimé, adoré, chéri, mère de ses trois mômes, devenu adulte. Celle-là même, de Guerlas, s'est barrée avec un autre. Un plus jeune de 10 ans et que Barnett décrit ainsi, grand, blond, avec de larges épaules et des yeux bleus. Bref, il aurait été parfait en uniforme de SS. Barnett n'est pas au top. Vous allez me dire que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour se mettre à écrire. La condition suffisante pour se mettre à écrire, c'est qu'un autre écrivain de métier, lui nommé Terry McIver, va publier une autobiographie. Les deux, Barnett et Terry, ont vécu dans le Paris des années 50, avant que Terry devienne écrivain, avant que Barnett devienne riche en produisant des inepties pour la télévision, nom de sa boîte de prod, les productions totalement inutiles. Mmh. Et McIver va dire des choses dans son autobiographie sur Barnett que Barnett réfute absolument. Bon, alors c'est des choses assez graves, hein. Il va écrire notamment que Barnett a assassiné son meilleur ami, Boogie, et conduit sa première femme au suicide. Ah oui, quand même, c'est pas de la révélation papier crépon. C'est deux questions qui t'attrapent dès le début en tant que lecteur. Est-ce que oui ou non Barnett a assassiné Boogie? Et pourquoi Myriam, la troisième femme, s'est-elle enfuie avec le SS? Enfin, le SS, qui aurait été parfait en costume de SS. En tant que lecteur, tu te dis qu'à la fin, tu sauras qu'il n'y aura pas de vérité relative. Oui, parce que Barnett attaque fort, hein. Il veut avec ce livre dire la vérité, il écrit « Je suis résolu à me montrer juste, un témoin sincère » et plus loin il dit même « Je suis prêt à jurer que tout ce qui suit est vrai, je suis innocent, sincèrement, j'en fais le serment devant Dieu comme on dit ». Enfin bon, on les connaît les écrivains, surtout ceux qui jurent d'écrire la vérité. Barnett aussi, c'est très bien ça puisqu'il était parti à Paris pour fréquenter les écrivains qu'il appelle des cœurs purs, les législateurs secrets du monde, et il en est revenu, décidé à fuir comme la peste les écrivains. Alors à présent que moi, j'ai lu les 500 pages du Monde selon Barnett, je sais la vérité. Enfin, je crois savoir. Enfin, non, j'ai décidé que Barnett, c'est lui que je crois. Pourquoi ? Ben pour la seule raison valable à mes yeux de lectrice, parce que c'est lui qui raconte les meilleures histoires, comprime il le fait avec hargne, avec humour, et avec la conviction que l'absurdité guide les êtres humains. Parce qu'également, Barnett, cet ivrogne, a une bien jolie devise mondaine, que je connais malheureusement trop bien, sortir, trop boire et insulter tout le monde. Mordecai Richler, c'est l'auteur, et Le Monde selon Barnett, c'est son dernier livre, figurez-vous. Il a tiré sa révérence littéraire avec une fausse autobiographie. La vérité vraie, en fait, ben on s'en fout pas mal. On se réjouit, on jubile, et puis on pense au revoir Barnett, au revoir Mordecai, au revoir Philippe, et puis merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud et... Avec les éditions ?
Alors, c'est les éditions du Sous-sol. C'est vraiment une magnifique maison d'édition. Et c'est Mordecai Richler, Le Monde selon Barnett.
Merci, Juliette. Arthur Teboul qui est avec nous, le parolier, le chanteur de Feu Chatterton. On va aborder ce deuxième sujet. La ministre de la Culture réfléchit, ça on a bien compris, à la mise en place du pass culture pour les jeunes. Un pass d'une valeur de 500 euros, mais qui donne accès à quoi ? On ne sait pas encore, étant donné qu'elle... Nous avons mené une expérience pilote sur un très très jeune. Voici le résultat.
Vous avez reçu le tome 2 de Briser la dictature du temps de Jarosson?
Pourquoi tu ne réponds pas?
Je ne veux pas d'enfant comme client. Il n'y a aucun échange intellectuel possible. Là, tout ce qu'ils veulent, c'est attirer notre attention pour voir un petit peu de nourriture ou d'affection, ça me dégoûte.
Il a l'air très bien celui-là.
Mais il vient ici toutes les semaines, il essaie de m'avoir l'usure, c'est un sournois.
On voit que vous avez devant la souffrance de Cicéron. Vous auriez devant la mort du même Cicéron.
Non, je l'ai pas. Alors tu vas faire ton petit numéro dans un cercle, puis tu reviendras quand t'auras pas de plus 5. Allez, fous-moi le camp, dégage.
Bon, bah, à la semaine prochaine.
C'est François Berléand et le petit Maëldan Wilmé dans Au bistrot du coin, film de Charles Némès. Alors, il y a 40 acteurs culturels qui se réunissent en comité de réflexion. Toujours la réflexion.
Ça colle, ça marche. Okay.
Ministère. Sur ce pass culture, qui est une promesse d'Emmanuel Macron, qui est très chouette de donner un chèque voilà, de 500 euros. Mais pour en faire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que aller voir Star Wars, est-ce que aller dans un restaurant, et la gastronomie, c'est de la culture, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec? Vous auriez pu faire partie de ce comité, pourquoi pas, de 40 acteurs culturels, Arthur. Si vous aviez été dedans, comment est-ce que vous pourriez circonscrire à peu près ce pass culture, ou vous, si vous rappelez vos années lycée, si vous aviez un pass culture, avec 500 euros, qu'est-ce que vous auriez fait?
C'est assez complexe parce que si on élimine certains produits culturels, ça devient un choix très arbitraire.
Mmh.
Ça peut être du coup du snobisme ou une forme de violence symbolique et culturelle.
On va prendre les gamers sur le dos.
Ah ouais, ouais. Quoi qu'au lycée, je jouais pas mal à la Nintendo 64, PlayStation 2, tout ça.
Donc vous seriez pas pour circonscrire
Peut-être encore moins aujourd'hui qu'hier, parce que le jeu vidéo... des formes devenues très très larges, mm-hmm, dans son expression, dans ses moyens de jeu, etc.
Et il y a beaucoup de créativité dedans.
Ouais, c'est...
Peut-être pondéré, s'ils vont voir Star Wars, hop, ils sont obligés d'aller voir Anne-Thérèse de Kersmaeker la semaine d'après. Ouais. Bam, bam,
c'est
donnant,
pas
donnant.
Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il y a une inégalité dans la médiatisation des arts, c'est ce qu'explique notamment l'article de La Croix aujourd'hui qui parle de space culture. Oui, l'idée d'équilibrer et peut-être d'inciter à aller découvrir des choses.
Ouais, je sais pas si c'est le meilleur moyen. Je comprends le principe. Mm-hmm. Certains arts sont laissés à l'abandon par les jeunes qui s'inquiètent un peu. Je sais pas si c'est le meilleur moyen de les rendre sexy non plus. Enfin, si c'est le but, je sais pas si c'est le meilleur moyen.
Vous qui êtes féru de poésie et d'art aussi, qu'est-ce qui vous a éveillé? Est-ce que c'est votre milieu familial? Est-ce que c'est votre curiosité? Est-ce que c'est quelqu'un qui...
C'est un mélange tout ça. Moi j'ai grandi dans un quartier très populaire, j'étais en ZEP au collège et du coup culturellement c'était assez limité disons. Mm-hmm. Mais j'avais un père qui écoutait beaucoup de musique, donc c'est un mélange. Et je crois que c'est surtout l'admiration pour certains professeurs. Enfin, je pense qu'on a besoin de mentors dans la vie. Parfois ça peut être un père, parfois ça peut être un camarade. On a besoin de se sentir comme ça. Et ce que j'aimerais moi dire, c'est pour ça que j'aime pas trop l'idée de mettre en avant des arts un peu délaissés, comme « ah, pauvre art, handicapé, on va donner une béquille », c'est plutôt de les rendre proches. Pour moi, si j'aime tant la poésie, c'est qu'un jour, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout sacrée et qu'elle ne devait pas être mythifiée. C'était quelque chose de commun qui était là dans la rue.
Et d'ailleurs, vous contribuez à la rendre accessible en la chantant.
J'espère.
Avec Feu Chatterton.
C'est juste une question. Est-ce que le matériel pour faire de la culture sera dans le pass? Parce que s'acheter un pinceau, s'acheter un piano, ça devrait aussi faire partie de ça.
J'espère que le ministère de la Culture vous entend dans sa réflexion.
Déjà qu'il réfléchissait, c'est reparti pour une semaine ou deux.
C'est à espérer en tout cas. Arthur.
Alors, si vous aimez la comédie de qualité, vous n'allez pas être déçus, c'est l'heure du sketch. Attention, parce qu'aujourd'hui, sketch introspectif, comment un disque arrive dans la playlist France Inter. Alors, vous êtes Guillaume, Charline et vous, Arthur, programmateurs musicaux sur France Inter. Comment ça se passe? Les auditeurs voudraient savoir. On se rend sur place.
Non, mais tu vois, le son du dernier album, je le trouve trop minéral, pas assez organique.
Salut les gars, je vous amène le dernier Orelsan.
Alors ça, c'est génial.
Ah, tu l'as écouté?
Ah non, mais je trouve ça génial.
C'est
un rappeur, il est mélancolique, il est blanc, c'est totalement France Inter. Ah, ça part direct en playlist.
Ok, bon. Post-clope?
Ouais, post-clope. Ouais.
Une demi-heure plus tard.
Alors, on a reçu le dernier Patrick Bruel.
Ah, ça non, ça.
Bah, tu l'as écouté?
Bah non.
Ok, bah, poubelle jaune.
Alors, il y a le dernier Barbe Olivien.
Poubelle bleue.
Ah, ok. Et le dernier Patrick Sébastien, il y a aussi.
Ah non, pour les déchets toxiques, il y a un bac spécial dans le couloir.
Post-café?
Allez, pause café.
Okay.
Allez.
Une heure et demie plus tard.
Les gars, on a reçu le dernier Feu Chatterton.
Qui ça? Je connais pas du tout.
Feu Chatterton.
Ah oui, c'est fauve, mais avec des chemises, c'est ça? On en veut de ça?
Si, le dernier album était bon.
Ouais, mais pareil que le chanteur est super snob, il se la pète un peu.
Ah bah génial, alors ça c'est super, c'est hyper France Inter ça.
Ah ouais, puis ce sera parfait pour chez Trapnard.
Ah ouais, t'as raison, ça part en playlist.
Ah ouais. Bon, on va déjeuner là, il est 11h45 déjà. Hein.
Bah,
16h30, retour au bureau.
Et c'est vachement bien là, ces Finlandais qui font du raga donut.
Ah ouais, ouais, ouais.
Attends,
ouais.
C'est quoi le raga donut?
C'est comme du ragamuffin, mais en plus ronce.
Ah bah ouais, évidemment, je suis con.
Ouais, ouais. Sinon, les gars, on a reçu un album concept. Là.
Génial, génial, mais de qui?
C'est un collectif de deux chanteurs.
Bah, vas-y, dis-nous, qui c'est?
Le disque s'appelle Francky Vincent Delerme.
Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Bah, apparemment, Vincent Delerme reprend des textes de Francky Vincent sur ses propres musiques et vice-versa, quoi.
Ah ouais, ah, on peut l'écouter, ça.
Viens ce soir dans mon Tipeee, tu verras mon Tikiki. Viens ce soir dans mon bungalow et me faire voir tes gros lolo. Tu veux mon zizi? Oui, oui, je vais te le donner. Oui, oui,
ouais,
oui.
Ouais, 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 ouais.
Tu veux mon zizi?
Ouais. Ouais, moi j'aime assez bien. Ouais.
Ah, c'est fort, hein?
Ah ouais, ouais, c'est fort ça. Playlist.
Ah, et playlist! Tous les jours, il essaye de déclencher le grand soir. Alors, on ne sait pas. Celle-là avait déclenché quelque chose avec Guillaume Meurice. Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, comme il n'arrive pas bien à pitcher son idée de grand soir, il est allé chez des spécialistes du pitch pour savoir ce qu'était donc un bon pitch.
Écoutez, parce que parfois, je trouve que les vôtres sont plutôt moyens.
C'est un peu moyen.
Ouais. Et surtout qu'aujourd'hui, voilà, il y a un événement particulier. Il y en a qu'on ne peut pas rater quand on est, comme moi, focus sur le process. C'est le grand rendez-vous Vivatech. C'est le rendez-vous des startups de France et même du monde entier. Le plus grand rassemblement de bullshit. Alors, il y a de l'innovation partout. Ça pue le big data. Alors attention, dans un pitch, on doit être précis. Ça, on l'a entendu. Sinon, c'est foutu. Premier conseil. On continue avec un autre exemple. Une startup qui propose d'envoyer des SMS, mais dans des bulles de BD. Oh, c'est génial. Pitch.
On propose aussi cette technologie aux entreprises qui veulent améliorer leur service client ou la communication avec leurs employés, justement pour casser un peu cette barrière hiérarchique. Il y a certaines entreprises qui cherchent justement à avoir des solutions pour ça.
Donc un patron va pouvoir virer un employé, mais avec...
Dans la bonne humeur.
Avec une petite bande dessinée.
C'est ça. C'est le plus important.
Voilà, un bon résumé du monde de la start-up. Où je vous rappelle que Vaseline se dit flexi-sécurité. Attention, on a toujours les termes... donc ça, c'est... Alors attention, dans un pitch, de pas être trop cynique. Là, c'était peut-être un peu trop cynique. Donc ça se voit. Alors le mieux, c'est de vous donner sans plus attendre une leçon de pitch.
Il faut lâcher un max de buzzword en fait. L'important dans un pitch, en 10 minutes, il faut lâcher intelligence artificielle, disruptive, digitalization, and des buzzwords.
Voilà, les buzzwords, on est bon là-dessus, hein. Mais on peut encore aller plus haut avec tout simplement le fondateur de l'école du pitch. Bah évidemment, l'école du pitch, il s'appelle Lorenzo, il est très sympa. C'est un maître du pitch, un pitch master, on l'écoute.
Ben, l'école du pitch, elle est présente sur Vivatech pour coacher les 400 startups présentes sur les labs de Vivatech. On a 40 coachs.
Des coachs de pitch.
Des coachs en pitch.
Des coachs en pitch.
Des coachs en pitch.
Attention, ne pas fâcher Marlène Schiappa qui est très tatillonne là-dessus en ce moment, hein. C'est pas des coachs à pitch non plus. Faites gaffe, faisez pas les cons, hein. Sinon Marlène, elle va foutre un coup de bécherel sur le coin du bec. Allez, on continue avec Lorenzo.
Les startups qui pitchent sur les scènes de Vivatech viennent s'entraîner ici avant de retourner faire leur pitch final on stage. C'est assez sympa, une super ambiance hyper bienveillante, donc on leur fait surtout des feedbacks positifs.
Des feedbacks de pitch.
Des feedbacks de pitch.
Feedback de pitch, très très important. Un pitch n'est rien sans un bon feedback de pitch. Je vous le dis qu'on peut upgrader à zap. Évidemment. Vous suivez? Je pitche bien, hein. J'étais ce matin donc à l'école. Mais voilà, je pense à me former encore mieux. Hein.
On a plus de 200 coachs actifs à l'école du pitch.
Comment on fait pour être recruté à l'école du pitch?
Pour être coach à l'école du pitch,
il faut pitcher, le fait qu'on est coach de pitch.
Il faut pitcher, mais ça s'apprend.
On peut être bon coach en pitch sans forcément être bon en pitch.
Effectivement, des très bons coachs en pitch sont pas forcément les meilleurs en prise de parole, mais ils ont toutes les techniques.
Et évidemment, hein, c'est là qu'on reconnaît les vrais coachs en pitch. Moi, j'ai connu des pitchers pas bons coachs en pitch et des coachs en pitch pas bons pitchers, et inversement, vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, voilà, je vais vous dire, c'est de pire en pitch. Oh là là! Un petit peu d'humour d'open space, ça fait pas de mal. Allez, terminons avec un dernier conseil, un conseil pitch.
Ce qui est important, c'est de bien articuler, bien articuler pour donner le nom de sa solution, histoire qu'on s'en souvienne à la fin du pitch. Donc voilà. Et surtout, je viens de faire le truc qu'il ne faut jamais faire, c'est finir par « donc voilà ».
Voilà, donc voilà, ça valait bien le coup que je vous donne un cours de pitch. Bon, retenez une chose, un pitch, c'est comme la petite brioche au chocolat, là, du même nom, avec les beaux discours start-up de la Macronie. À la fin, on va tous finir par se faire fourrer.
what you pay for that. And once you're gone, you can't ever come back. When you're out of the blue and into the black.
Neil Young, My My Hey Hey.
Chanson préférée des Beg.
Ah oui ?
Oui.
Neil Young, alors qu'on va poser cette question provocatrice, pourquoi détestons-nous les vieux ? Vous
Malin,
avez vu
bah, oui,
cette programmation, elle est réfléchie, c'est oui, Chewbacca qui vous la concocte tous les jours. Et nous allons recevoir maintenant Danielle Mérian, qui est cette femme formidable, avocate, militante féministe, et qui s'était exprimée au lendemain des attentats du 13 novembre. Je pense que c'était BFM qui était allé à sa rencontre, mais par hasard dans la rue. Et elle avait accroché notre attention, notre oreille avec des mots d'apaisement et aussi en nous conseillant de relire Paris est une fête d'Ernest Hemingway, Danielle Mérian. Oh, allez, une demi-heure avec elle, c'est le bonheur.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue Danielle Mérian.
Merci.
Mais toute la France est ravie que le hasard vous ait mis sur notre route. Donc effectivement, c'est un jour une caméra de BFM, trois jours après les attentats.
Pas des conneries, ces gens-là.
Les attentats, alors que vous déposiez une fleur, toute la France vous a vu avec votre message d'apaisement, de paix et cette référence à l'ouvrage d'Hemingway. Danielle Mérian, ce statut, vous l'avez endossé, vous ne l'avez pas fui, vous auriez pu le fuir d'ailleurs. C'est assez peu commun finalement que la population se trouve une figure un peu tutélaire comme ça, chez une passante, chez une citoyenne. Est-ce que ça, c'est symptomatique aussi de notre époque, ou plutôt que de chercher une figure parmi un politique, les écrivains c'est toujours le cas, mais aujourd'hui on est dans une société de l'image, donc de chercher quelqu'un qui vient de parmi nous, du peuple quoi.
J'avais pas de raison de fuir cette notoriété parce que j'ai constaté à mon grand étonnement un immense mouvement de fraternité. Déjà, le jeune musulman Karim Boukarcha qui m'envoie, qui me cherche, qui me trouve et qui m'envoie un magnifique bouquet et qui se dit je vais me le faire rembourser, qui lance une cagnotte, il espérait 200 €. En un mois de temps, plus de 1800 donateurs m'ont offert plus de 17 000 € de fleurs que j'ai pu distribuer à mes associations. Donc j'aurais tort de me plaindre de cette notoriété. Et puis sur mon boulevard, puisque j'habite boulevard Richard Lenoir à deux pas du Bataclan, tous les jeunes venaient vers moi, vu mon grand âge, me demandaient la permission de m'embrasser, ensuite de faire un selfie. C'était très mignon parce que tous ces jeunes jeunes hommes me disaient c'est pour ma femme, c'est pour ma sœur, c'est pour ma mère, c'est pour ma fille. Mais c'était avec eux que je faisais la photo. Mais c'était touchant. Et puis, il y avait vraiment pas que de jeunes musulmans à venir me dire merci madame pour ce que vous m'avez dit. Donc, moi qui n'ai que le mot fraternité à la bouche, je dois dire que, j'avais pas tellement l'intention de devenir célèbre, puisque quand j'étais enfant, mon père étant archi célèbre, je détestais de sortir avec lui parce
grand que journaliste.
Tout le monde nous regardait. Je trouvais ça odieux. Je me disais, vivons heureuses, vivons cachées. Ah. Ce que j'ai parfaitement réussi, 77 ans.
Daniel Mérian, d'ailleurs, vous transformez cet élan en quelque chose de concret pour aider à changer le monde. Il y a notamment une rencontre intitulée « Autoportrait d'une féminitante », rencontre avec Daniel Mérian. C'est pour la 3e édition de En scène Simone qui a lieu le 15 juin. Ce sera au Sentier des Halles à 21h15. Puis vous raconterez votre vie, vos combats, etc. Et il y a notamment ce combat avec l'association dont vous êtes présidente, contre l'excision notamment.
SOS africaine en danger.
Exactement.
Vous savez pourquoi ces jeunes femmes que j'admire beaucoup, dont je suis extrêmement honorée d'être la présidente, elles ont construit très rapidement cette association parce qu'il se trouve qu'à Parcours d'Exil, qui est un centre de soins aux torturés, le docteur Duterte a reçu tellement de jeunes femmes peules, guinéennes, faut pas être peules, qu'il s'est dit si je leur proposais un groupe de parole. Et tout aussitôt, ces femmes qui se sont donc rencontrées alors qu'elles étaient isolées, qu'elles couchaient dans la rue, comme vous savez, parce qu'avant d'avoir une place dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile, on est au 115 tous les jours. Elles ont tout de suite créé cette association et des Africaines en danger, ce sont leurs petites filles laissées au village. Donc vous imaginez ce que sont leurs cauchemars. Et obtenir le statut de réfugié, c'est déjà un combat. Mais alors, faire la procédure de reconstitution familiale quand on a le statut, alors là, c'est pire que tout, parce que nos ambassades violent la loi, comme nos préfectures violent la loi tous les jours, et donc on fait le maximum de difficultés à ces jeunes femmes, au lieu de délivrer immédiatement aux enfants les visas. Donc c'est un combat extrêmement difficile. Ah
bah. Daniel Mérian est avec nous, vous l'avez compris, la présidente donc de SOS Femmes Africaines en Danger. Voici le premier sujet qu'on a choisi de traiter avec vous. Les Irlandais décident de légaliser ou non l'avortement. La Constitution l'interdit pour l'instant, mais elle autorise les femmes à aller dans un autre pays pour se faire avorter. Et donc tous les ans, plus de 5000 femmes irlandaises partent se faire avorter en Angleterre. Et après, on s'étonne que les enfants se posent des questions sur leur venue au monde.
Un jour, tu as rencontré une femme. Tu l'as regardée, désirée et ensuite aimée. Je suis née d'un plaisir égoïste. Peu à peu, j'ai grandi dans cette putain de société où la connerie humaine règne. Mais je suis là, conséquence d'un plaisir qui a été le tien. Et je peux te jurer que si tu avais regardé le foot ce soir-là, tu aurais accompli un acte plus grand que la révolution dont tu rêves. Malheureusement, ce soir-là, ça devait être un film de Chantal Akerman. Moi, j'ai envie de vivre, mon vieux.
Un extrait de Camping Cosmos, grand classique du cinéma belge. Un film de Yann Bucquois qui met ici en scène sa fille, Eve Bucquois, qui a donc été conçue un jour, il y avait Chantal Akerman.
Avec Lolo Ferrari. Oui. Camping Cosmos, peut-être un des seuls.
Daniel Mérian, vous êtes avocate en droit de la famille, féministe, mais aussi catholique. Cette journée de référendum en Irlande doit beaucoup vous interpeller, j'imagine, sur l'aspect demandé au peuple de se prononcer sur cette question aujourd'hui en Europe en 2018.
Ben, j'espère bien que le oui va l'emporter. Je ne désespère pas qu'au 22e siècle, les femmes possèdent leur corps et en disposent elles-mêmes. Oui, je suis catholique. Pour moi, mais j'oblige personne à penser comme moi. Tout le monde pense ce qu'il veut. Pour moi, l'avortement est un crime. Ceci étant, j'ai failli avorter. Car lorsque je portais mon fils, ma fille a eu le bon goût d'avoir la rubéole. J'ai passé les pires journées de ma vie à me regarder sur toutes les coutures pour savoir si les boutons arrivaient. Et je pensais, je ne mettrais pas au monde un enfant aveugle. Par chance pour moi et pour mon fils, nous sommes là tous les deux. Et puis je pense que c'est un véritable scandale que seuls les riches puissent avorter, puisque les riches pourront toujours voyager, c'est tout à fait lamentable que les pauvres soient obligés de demander des pilules abortives à travers Internet et n'aient aucun suivi. C'est un véritable scandale que l'avortement ne soit pas libre et gratuit. Et mon mari, feu mon mari, à 22 ans que je suis veuve, était directeur de la Mutuelle des Affaires étrangères et il a milité pour que l'avortement soit libre et gratuit, ce qui n'empêchait pas d'être catholique pratiquant.
C'est un cas particulier l'Irlande, parce que vous avez quand même de grandes chances d'avoir un enfant roux. Donc, ça compte.
Daniel Meria, pour essayer de ne pas rester là-dessus, dernière petite question à ce sujet, est-ce qu'en France, c'est définitivement acquis ou il faut toujours rester quand même vigilant?
Ah mais les femmes ont toujours à être vigilantes puisque les choses n'avancent que lentement. Quand on obtient une loi rapidement, elle est, je ne dirais pas complètement en déshérence, mais aujourd'hui, avorter en France, c'est de plus en plus difficile parce que c'est de plus en plus difficile de trouver un hôpital où on puisse le faire. Mmh. Et quand une femme a besoin d'avorter, ben c'est rapide, donc il ne faudrait pas qu'elle ait tant de difficultés. Ce combat-là, il se renforce, si j'ose dire, puisque malheureusement, on n'applique pas la loi comme elle devrait être appliquée.
Daniel Meriant est avec nous, à côté de vous. Il y a ma sœur.
Yo, ma sœur.
Je ne suis pas sûr de ça.
Oh là là, vous ne pouvez pas comprendre, oui, Alex. Bah. Alors, tous les jours, c'est la journée mondiale de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la serviette. De la serviette, mes amis. Non, mais j'hallucine, quoi. Alors, moi, je trouve que s'il y a quelque chose qu'on ne célèbre pas assez, c'est les râleurs. Non, parce qu'on dit aux Africains de France, là, assimilez-vous, assimilez-vous. Et voilà, moi, je suis bien assimilée maintenant. Et en tant que bonne Française, je décrète qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale des râleurs.
Voilà.
Bravo.
Ça ira très bien, c'est tous les
jours. Bon, bah... on
saura faire. Sur quoi on va bien pouvoir aller maintenant? Ah oui, ça y est, j'ai trouvé, sur les amis. Je trouve que on ne râle jamais assez sur les amis. Du coup, ils se croient tout permis. Tenez, moi par exemple, une fois j'étais invitée chez des amis à Perpète-les-Oies, comme vous aimez dire ici. Nous on dit jusqu'à là où le chien est mort là. Alors je ne pouvais pas arriver les mains vides parce que pour moi l'amitié c'est sacré. Et donc je suis allée chez un caviste et j'ai acheté une bouteille de Nuit Saint-Georges. Ma tirelire est morte ce soir là et mes économies avec. Mais comme je vous le disais, l'amitié c'est sacré. Toute la semaine, j'ai regardé la bouteille droit dans les yeux en tripotant mon tire-bouchon tout en me disant « Tu ne faut pas que tu la boives, tu ne dois pas la boire, tu ne dois pas la boire. » Pour m'aider, je passais en boucle la chanson de France Gall. Résiste! Alors, le jour J, je suis allée chez mes amis, ma bouteille sous le bras. J'arrive, je sonne, on m'ouvre, je tends la bouteille. Nuit Saint-Georges à servir à 16 degrés, il est à point pour l'apéro. Et là, ils me disent « Ah bah pour l'apéro, on a acheté de la sangria en cubi de 5 litres. » En promo, on en a eu deux pour le prix d'un. Et là, je vois ma bouteille qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui s'éloigne, loin de moi, loin, 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 vers la cuisine. Ah ben, dans ce cas, on l'ouvre pour le repas alors. Mais quand les merguez et chips sont arrivés, il y avait de la bière, le reste de la sangria, une bouteille de velours du Gosier. Sur l'étiquette derrière, c'était marqué « Mélange de vin de la communauté européenne millésime 2018, volume d'alcool 22,5%, s'accorde parfaitement avec des saucisses Naki Herta. » Là, j'ai dit, bon, Nuit Saint-Georges, c'est aussi bien aussi pour le fromage, non?
Oui, il était bon le fromage, au moins, Rouquette.
Il n'y a pas eu de fromage, Aline. C'était directement le dessert. Non, mais Bernadette avait fait un cake au yaourt à la fraise qu'on a servi avec de la clairette de Die. Donc, à un moment, pendant le café, alors que mes amis se trouvaient les boyaux avec la gnôle de tonton Alfred, je me suis discrètement éclipsée avec mon sac à main dans la cuisine, dans l'espoir d'aller récupérer ma bouteille de Nuit Saint-Georges, mais elle n'y était pas. Alors, j'étais en train de retourner la cuisine dans tous les sens quand Bernadette est entrée avec le reste de son putain de cake au yaourt à la fraise et elle m'a dit « Mais Rookie, qu'est-ce que tu fais ?» Là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai attrapé une poêle, je l'ai frappée à la tête et ensuite, je me suis précipitée sur elle et je lui ai fait bouffer son putain de cake au yaourt à la fraise jusqu'à la dernière minute niette et en hurlant comme une folle. Elle est où ma bouteille? Elle est où ma bouteille? Moralité, quand votre invité ramène une bouteille de vin, ouvrez-la et partagez-la avec lui. Oh, ça fait du bien. Je promets, à la prochaine chronique, je deviens plus sage.
Merci, Rukyata Ouedraogo. On a tous reconnu un petit peu cette situation. Nous sommes toujours en compagnie de Daniel Mérian et nous allons aborder ce deuxième sujet avec vous, Daniel. Slate.fr s'est fendu d'un article intitulé « Pourquoi déteste-t-on les vieilles ?» C'est un article qui fait partie d'une série pour déconstruire les préjugés sur les fonctionnaires, les roues, les punks. Dans le fond, on est toujours le vieux de quelqu'un, mais ce que souligne l'article, c'est que la femme âgé subit davantage le préjugé que l'homme plus âgé. Démonstration.
Bonjour maman. Dis bonjour à ta grand-mère Léo.
Bonjour.
Bonjour qui ?
Mamie.
Je veux pas qu'il m'appelle comme ça.
Tu veux qu'il t'appelle comment ?
Je préfère qu'il m'appelle pas. À quelle heure tu m'en débarrasses ?
Mon patron m'a demandé de faire des heures sup, je pouvais pas.
À quelle heure ?
Vers 5 heures.
Pourquoi tu m'aimes pas, mamie ?
Parce que t'es noire.
C'est Bernadette Lafont dans Colette, film de Michel Hochevier. Daniel Mérian, on se posait la question en voyant cet article. L'article, évidemment, a un titre provocateur, souligne que ce préjugé que certains auraient en disant oh, elle est plus âgée donc elle est chiante, il est davantage tenace pour les femmes que pour les hommes.
C'est la continuation de la domination masculine. Sois jeune et jolie et tais-toi.
Ouais.
Bon, ça a marché. Très, très, très longtemps. Alors, bon, moi, je trouve que c'est formidable de vieillir, non pas d'avoir des rides, mais comme on travaille, comme on lit, comme on apprend, comme on rencontre tous les jours. J'ai le sentiment d'être moins bête que lorsque je suis née. J'ai le sentiment que je m'humanise et je suis donc ravie d'avoir l'âge que j'ai.
Moi, quand je voudrais être plus grande, je voudrais être Daniel Mérian. Il y a aussi ce mot, justement, je profite que Rukyata Ouedraogo soit là. Dans nos sociétés, vieille est un mot un peu péjoratif, alors que là, vous lui redonnez tout un sens positif, c'est vrai. Et les Africains, chez vous, c'est extrêmement valorisant.
Effectivement, chez nous, le vieux, c'est le sage.
Voilà.
C'est celle qui passe, les grandes mères chez nous, c'est celle qui passe l'histoire, qui apprennent nos enfants. Donc, tous les soirs, les enfants se réunissent après le repas autour de grand-maman pour qu'elle raconte des histoires et c'est comme ça qu'elle transmet aussi aux enfants et c'est très important. Et malheureusement, avec la modernité, les enfants sont maintenant devant les télévisions, devant les réseaux sociaux et voilà, et on perd un peu de ça et c'est un peu dommage. Et non, il faut valoriser nos grandes-mères et maintenant, il faut les aimer parce qu'elles sont...
C'est vrai.
Mon rêve est arrière-grand-mère.
Oui. Ah, oui. C'est vrai que on vous a beaucoup appelé la grand-mère des Français.
Oui, j'ai pas beaucoup apprécié, mais.
Oui, c'est vrai, j'ai bien compris. Car grand-mère, vous l'êtes, mais dans l'intimité, déjà.
Mes amis me disaient, on t'a jamais vu en grand-mère, même si mes amis savent que je suis une grand-mère.
Justement, il y a cette histoire de grand-mère, mais je suis bien sûre que vous avez reçu également une tonne de courriers. D'hommes tout à fait disposés à dîner avec vous. Dites franchement,
attention. Non.
J'y crois pas qu'à tout.
Vous continuerez la discussion avec Daniel Mérian qui est entré dans ce studio.
Eh bien, c'est pas de chance parce qu'on aurait tous aimé savoir, mais c'est l'heure de Frédéric Fromet qui est derrière vous, Daniel.
Bonsoir.
Il vient nous chanter l'actualité chaque vendredi. De quoi allez-vous nous chanter cette semaine ?
Eh bien, j'ai pris la plume pour vous parler des poules, des jeunes poules. Vrati pas qu'un brave gars, j'aurais fait NSEA. Passionné par les grillages, mis toutes ses poules en cage. Les cocottes emprisonnées, entassées par milliers. Ne voyaient jamais le ciel, qu'est-ce que ça peut leur foutre? Il faut qu'elles, coûte que coûte, pondent et puis c'est tout. Pompoupoule, pompoupoule, pomp. En faisant cote-codec, quand je te coupe le bec. Pompoupoule, pompoupoule, pomp. Le trou du cul bouché, y'a plus qu'à zigouiller. C'est avec ça je passe pas chez Didier Varro dans Poule Sentimentale. Vlati pas qu'on conseille que les poules voient le soleil. Vlati pas que les gallinacées devraient faire des UV. On verra ça évidemment quand elles auront des dents. À tous les amis des bêtes qui trouvent que c'est pas cool, on ne fait pas d'omelette sans casser des poules. Pom pom poule, pom pom poule, pom. Sur un format A4, je te casse les pattes. Pom pom poule, pom pom poule, pom. Les plumes arrachées, l'œuf devrait mieux passer. Je vise soit poule sentimentale, soit le cloaque et la plume. Flatis pas que ça piaille pour défendre la volaille. Y'a pas de quoi se rendre ma boule, ce ne sont que des poules. Rien que des poules dans du purin, comme les vieux dans les EHPAD. Il manquerait plus qu'on prenne soin des plus vulnérables. Restons cool, y'a pas de quoi alerter Interpool. Pompoupoule, pompoupoule, pom. Vois-tu, c'est pour ton bien que je broie tes poussins. Pompoupoule, pompoupoule, pom. Ou je te coupe la tête pour y faire des mouillettes. Les têtes d'œufs et les starlettes, faut bien que ça caquette. Que ça nous dise, j'ai les boules, la bouche en cul de poule. On n'attend plus que la pensée de poule McCartney. Une vidéo choc avec Yves Lecoq. Et le fameux coup de pouce de Laurent de la Glousse. Pompoupoule, pompoupoule, pom. Fais-moi des beaux cocos ou je te brise les os. Pompoupoule, pompoupoule, pom. Tu peux toujours gueuler, je crains pas me faire embarquer par un quart de poulet.
Et c'est avec ce mi bémol de Frédéric Fromet que tout doucement on se dirige vers la fin de l'émission.
Oui, mais c'est pour mieux se retrouver demain, me semble-t-il. Et vous aimeriez savoir qui vient demain. Eh bien,
oui,
ne regardez pas comme ça idiotement parce que je le sais. Et oui, mais vous pas, mais moi je le sais. Demain, eh ben c'est peut-être parce que c'est moi qui ai un petit peu choisi. Parce qu'il y a Sheila demain.
Ah, super.
Ah, ben voilà, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est moi qui l'ai
dit. Ah non, mais j'aime beaucoup.
Vous aimeriez Patrick Préjean en deuxième invité?
Ah oui, la voix de Tigrou.
Eh ben c'est lui. Allez.
Et le gendarme.
Eh oui.
Oh, génial. Vivement demain.